s'il vous plaît. Donc, on va commencer avec retard. Le retard est d'abord dû aux embouteillages que nous avons pour François, qui a été un petit peu retardé. Et ensuite, nous n'avons pas le micro qui fonctionne, mais en fait, est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que eux aussi veulent partir de chez nous? Ces micros. Donc, tout simplement pour dire que, bienvenue à François Morin. C'est François qui nous a fait la première conférence lorsqu'on a créé la Pipe en vol. Il faut s'en souvenir. Nous étions nombreux d'ailleurs, très nombreux, presque autant que ce soir. Et que dire sur François, puisqu'il est très connu ici, il intervient très régulièrement à la Pipale, il intervient dans notre titre, dans notre territoire du Volvès. Dire qu'il est professeur émérite de Toulouse 1, Toulouse Capitole, je crois qu'on le sait tous peut-être. Dire aussi que c'est un auteur qui a publié plusieurs ouvrages très importants dans la pensée économique qui n'est pas liée à la pensée actuellement dominante. François était adhérent et presque fondateur des économistes atterrés, je le rappelle. Et ensuite, il a été aussi dans des fonctions opérationnel en quelque sorte, il a été membre du conseil de la Banque de France pendant plusieurs années, au début des années 80. Et toujours fidèle à lui-même, il vient nous dire gentiment et parler avec nous en nous présentant le Brexit est après. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, bienvenue. Alors il faut parler fort.
Merci. D'abord de cette invitation, Bernard. Merci à la Pipe en vol de m'inviter à nouveau. Je vais donc parler un peu plus fort que je n'ai l'habitude de faire, mais je pense que tout le monde m'entend, même au fond. Bien. Donc. Alors, il faut que je m'arrête ou
non?
Ah, ça a disjoncté. Bon, d'accord, ok. Alors, je vais continuer. Bien. Alors, avant de commencer, je voudrais évidemment avoir une pensée pour les incidents qui ont eu lieu aujourd'hui à Londres. C'est clair que l'Angleterre est de nouveau affectée par cet attentat, avec, on le sait maintenant, plusieurs morts et des blessés. Eh bien, évidemment, cette situation est un peu en décalage par rapport à ce que je vais vous dire ce soir. Parce que ce soir, on va parler de quelque chose d'un peu triste, d'une certaine façon, puisque l'Angleterre, comme vous le savez, plus exactement le Royaume-Uni, a décidé de se séparer de l'Union européenne. Et tout le monde a compris que cette séparation représentait un choc, non seulement pour les Britanniques, bien sûr, mais aussi pour l'Europe. Alors, ce choc, il intervient dans un contexte turbulent. Turbulent économiquement, puisque les effets de la crise financière de 2007-2008 ne sont toujours pas effacés. Turbulent politiquement aussi, puisque le Brexit intervient après l'élection de Donald Trump, après des élections qui vont avoir lieu en Europe, comme vous le savez, en France, en Allemagne, et qui ont eu lieu également aux Pays-Bas. Ce qu'on observe, c'est quand même, comme je le dis dans cette introduction qui est ici, alors il faut que je trouve les bonnes flèches, voilà, où on observe ce qu'on peut appeler, ce que tout le monde appelle, des reculs identitaires dans ce monde qui est toujours plus globalisé. Et on voit bien que c'est probablement à cause de cette globalisation, de ses effets économiques et surtout sociaux, que ces replis ont lieu avec, comme vous le savez, tous les dangers qui peuvent accompagner cette fièvre populiste que l'on observe un peu partout maintenant, qui, loin de se tarir, se manifeste toujours plus. C'est ce qui est dit dans cette première planche. Et le plus grave dans tout cela, c'est que cette fièvre populiste, malheureusement, elle est souvent liée à une vague xénophobe, la peur de l'étranger, et voire une vague raciste. Et donc, ces replis identitaires sont porteurs de danger potentiel évidemment très, très important. En Grande-Bretagne, c'est ce parti UKIP qui a été à l'origine, vous le savez sans doute, du Brexit, qui a formulé d'une certaine façon les raisons pour lesquelles il fallait que la Grande-Bretagne se sépare de l'Union européenne, avec comme idée principale, c'est ce qui est dit dans le premier paragraphe, là, l'idée qu'il faut que la Grande-Bretagne, finalement, soit seule responsable de ses actes devant l'électorat du Royaume-Uni. L'idée, c'est que, ben oui, il faut retrouver notre souveraineté pleine et entière, et même totale, si je puis dire, et ne plus entrer, effectivement, dans une construction européenne où on est obligé, souvent, peut-être trop souvent, de partager les décisions. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce parti, il est évidemment nationaliste. Il est clair aussi qu'il a, comme en France, hein, quand on pense au parti de Marine Le Pen, il a des tendances islamophobes, xénophobes, la peur de l'étranger, la peur de l'immigration, et puis aussi des tendances malheureusement racistes. Voilà, alors, je vais rentrer un peu plus dans le sujet maintenant, en rappelant des dates récentes qui ont déclenché le Brexit. Hein. Donc, en juin de l'année dernière, donc il y a à peu près 8 mois maintenant, un peu plus, décision du peuple britannique du Brexit, ce qui pose un problème énorme pour, du reste, la Grande-Bretagne, parce qu'elle a été très vite confrontée à ce qu'on a appelé une double souveraineté, celle du Parlement, qui, dans le monde britannique et en Angleterre particulièrement, joue un rôle tout à fait essentiel. La légitimité, donc, parlementaire d'un côté et la légitimité de l'autre, du peuple. Et donc, il y a eu tout un débat pour savoir si, finalement, le Parlement pouvait ou ne pouvait pas avoir une position différente de la position prise par ce référendum. Comme vous le savez, il y a quelques jours, le Parlement britannique a décidé, donc, alors que la majorité des députés, c'est clair, sont contre le Brexit, eh bien cette majorité a quand même décidé de voter le Brexit. C'est un peu paradoxal, mais d'une certaine façon, le Parlement s'est incliné politiquement devant la souveraineté populaire. Ensuite, dans quelques jours, le 29 mars, c'est la semaine prochaine, eh bien, on aura le déclenchement de l'article 50 du traité européen, traité de Lisbonne, qui met en œuvre le processus de négociation lié à la sortie de la Grande-Bretagne. Donc, c'est une date importante parce que dans 2 ans, ou bien il y a un accord qui se fait avec l'Union européenne sur les nouveaux rapports entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Oula, ça a l'air de marcher. Ou bien, si dans 2 ans, cet accord n'a pas lieu, eh bien, d'un seul coup, la Grande-Bretagne sera obligée de renégocier absolument l'ensemble de ses rapports avec l'Union européenne, et, en partant de zéro, en quelque sorte. Voilà. Et puis, dans une quinzaine de jours, le 6 avril, c'est au tour de l'Union européenne, à 27, de décider de savoir ce qu'elle va faire par rapport au Brexit. Et donc, définir, comme je l'ai dit ici, les principales lignes directrices de la négociation avec les Britanniques. Donc voilà quelques dates que je voulais mettre en avant pour le propos de ce soir. Ensuite, eh bien voilà, je vous propose un plan en 2 parties. Je crois que ça va me prendre à peu près 50 minutes, peut-être un peu moins, pour vous expliquer sa grésille. Hein. Le micro portable est peut-être meilleur, il marche ?
Il marche.
Voilà. Oui, même un peu plus fort, mais ça va être parfait. Bien, donc, vous voyez, l'idée, c'est d'abord de vous dire ce que ce Brexit annoncé, pour l'instant non réalisé, a déjà produit comme effet. Il y a des effets qu'on observe déjà, et puis il y a des incertitudes, bien sûr, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, et ces incertitudes se manifestent déjà concrètement, en quelque sorte, en Grande-Bretagne, et puis aussi, d'une certaine façon, par contre-coup, en Europe. Et puis, dans une seconde partie, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir à ce qui nous attend, alors, évidemment, en Europe, mais aussi en Grande-Bretagne, et de façon un peu plus large, par rapport à la problématique plus générale que j'évoquais en introduction. Nous sommes dans un monde en multicrise. La crise, elle n'est pas simplement britannique ou européenne. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis, on voit bien ce qui se passe dans le reste du monde. On s'aperçoit que tout bouge en ce moment. Et on sort d'une crise très importante, la crise de 2007-2008, et on est à peu près certain qu'on va rentrer prochainement dans une nouvelle crise, très probablement financière. Toutes les conditions sont réunies pour qu'une nouvelle crise financière soit aujourd'hui de nouveau devant nous. Donc, vous voyez qu'on a affaire à un problème de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Quelles sont les logiques fondamentales qui, finalement, nous amènent aujourd'hui à connaître ces ruptures, dont le Brexit n'est qu'un des éléments, un élément important, certes, mais qu'un des éléments. Donc ça sera plutôt en conclusion que je reviendrai sur ces questions. Voilà. Alors, j'attaque tout de suite la première partie par des choses relativement connues, pas trop difficiles. Donc le choc du Brexit, je vais les développer à travers les effets déjà visibles qu'on voit donc et qui peuvent être prévus du reste. Et puis ensuite, une fois vues même les incertitudes, on essaiera de voir quels sont les éléments de la négociation qui s'annonce, qui n'a pas encore démarré. Alors, des effets économiques immédiats, parce que effectivement le Brexit incite les entreprises à anticiper ce qui risque de se passer, puisque il y a eu un discours, notamment de Theresa May, extrêmement dur sur la façon dont les choses allaient se passer. On a parlé du hard Brexit. Et donc, les entreprises sont obligées, par rapport à cette perspective, il ne sera pas molle, d'anticiper les choses. Donc, on va regarder cela. Et alors, il y a déjà des effets macroéconomiques, comme on dit, sur la livre sterling, le commerce extérieur, les prix, les taux d'intérêt. Alors, je vais passer ça très, très rapidement, mais aussi, bien sûr, sur l'emploi et l'épargne. Bon, alors, regardons ça assez vite. D'abord, ben oui, la livre sterling, elle a pris un coup. La livre sterling, comme je l'ai dit ici, a perdu à peu près 17% de sa valeur par rapport au dollar, un peu moins par rapport à l'euro, 9,3, comme c'est indiqué ici, depuis le vote du Brexit, le 23 juin. Et la baisse n'est probablement pas terminée, d'après toute une série d'instituts spécialisés en matière de prévision économique. Alors, vous voyez, on peut mettre ça sous la forme d'un graphique, parce que vous le voyez. J'ai mis un trait rouge au moment du 23 juin, c'est-à-dire au moment où le Brexit a été décidé par référendum, et vous voyez bien la dégringolade de la livre sterling, qui probablement va se poursuivre. Alors, tout ceci a des effets, déjà. Ça, c'est ce qu'on observe. C'est pas quelque chose d'incertain. Mais ça a des effets, notamment, sur les exportations, parce que quand une devise décroche, il y a un effet quand même positif sur les exportations, puisque les prix à l'exportation, du coup, pour le reste du monde, se trouvent moins chers, en quelque sorte, puisque la livre a perdu de sa valeur. Donc, les entreprises exportatrices britanniques peuvent exporter davantage. Il y a toujours un décalage d'un trimestre, c'est ce qui est dit dans le titre, et vous voyez que, effectivement, dès octobre 2016, et puis le mouvement se poursuit, on voit, c'est la dernière barre, on voit les exportations partir. Là, c'est un effet tout à fait intéressant pour la Grande-Bretagne, naturellement. Mais la contrepartie, c'est que du côté des importations, c'est l'effet inverse. Quand la Grande-Bretagne importe, Et il faut qu'elle dépense davantage. Les prix à l'export ont augmenté de 17%. Et comme tout pays développé, la Grande-Bretagne exporte beaucoup. Et il y a une difficulté à importer, hein, décalage là aussi d'un trimestre, avec un effet, parce qu'évidemment ça coûte plus cher que d'importer, et donc ça peut pénaliser toute une série d'industries, mais avec un effet sur les prix intérieurs, parce que le coût des importations est plus élevé, donc les prix pour fabriquer les biens et les services qui ont besoin pour leur fabrication de biens importés, eh bien les prix augmentent. Et donc on a des effets très importants sur l'inflation. Alors là aujourd'hui, alors je ne sais pas si, donc j'en parlerai un peu après, mais du fait de la baisse de la livre sterling, il se trouve que vous voyez que le Royaume-Uni, qui était en cinquième position du point de vue de la production de biens et de services, du point de vue du PIB, comme on dit, eh bien en janvier 2007, s'est retrouvé à la septième position, et la France, en quelque sorte, a pris la place du Royaume-Uni. Ça c'est, je dirais, le classement mondial. Bon, c'est des choses que les journalistes évoquent de temps en temps, donc j'en parle. Ça n'a pas de très très grande signification, mais ça fait partie des choses dont on parle, donc je les évoque maintenant. Mais c'est vrai que ça crée des chocs psychologiques pour tout le monde, ce type d'information. Alors, les taux d'intérêt ont tendance, eux, à augmenter dans cette période, parce qu'évidemment, les marchés financiers s'inquiètent du Brexit, j'en parlerai tout à l'heure. Et on le voit sur la dette britannique, la dette d'État britannique, ce qu'on appelle les obligations à 10 ans. Une dette est constituée de titres financiers qu'on appelle des obligations. Et il y a des taux d'intérêt. Et comme c'est un marché, si on a moins de confiance dans l'avenir de la Grande-Bretagne, ça se répercute sur les taux d'intérêt parce que les gens hésitent à acheter ces obligations sur le marché, et ce qui provoque un relèvement des taux d'intérêt. Il faut que les taux d'intérêt soient plus élevés pour attirer les capitaux extérieurs, pour financer la dette, notamment la dette publique. Donc vous voyez bien qu'il y a eu un relèvement des taux d'intérêt, ce qui n'est pas bon pour les finances, évidemment, britanniques. Donc ça, tout ça, c'est des effets visibles. Alors, l'épargne personnelle, les gens sont obligés de tenir compte de tous ces effets, ils désépargnent, en quelque sorte, l'épargne diminue. La croissance du produit intérieur brut, le PIB, il a connu un petit choc au départ. Aujourd'hui, semble-t-il, les perspectives sont meilleures à cause, effectivement, de ce qui se passe du côté des exportations dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je vais un peu vite. Par contre, là, les chiffres sont très mauvais en matière d'inflation, c'est-à-dire en fait de perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Quand vous avez les prix qui montent, vous comprenez bien que si vous avez les mêmes revenus, ça pose un problème dans le panier de la ménagère. Et donc là, j'avais donné des chiffres qui étaient valables pour janvier. On est en fait en février, alors je ne sais pas si c'est dit ici, je ne crois pas, je vais regarder. Oui, non, ce n'est pas dit vraiment ici. En fait, en février, on s'est aperçu, ce sont les derniers chiffres, que les prix avaient augmenté de façon incroyable au mois de février. Et ça, c'est sous l'effet, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment du prix des importations. Bon, j'ai l'impression que je suis un peu technique, un peu économiste, là, en parlant de tout cela. J'essaye d'être pas trop compliqué. Je vous décris ce qu'on appelle un panorama macroéconomique avec les grandes grandeurs par rapport auxquelles souvent les acteurs agissent, évidemment qu'on soit citoyen, salarié, chef d'entreprise. Alors le taux de chômage, il n'est pas mauvais parce qu'il y a de l'activité. Il y a de l'activité et même si on prévoit, et plusieurs analystes prévoient plutôt une montée du chômage en Grande-Bretagne à cause du Brexit, les évolutions ne sont pas énormes. Il y a toujours, enfin, du point de vue des critères et des mesures du taux de chômage, il y a plutôt, toujours, une activité relativement soutenue. Enfin, il faut savoir aussi que derrière ce taux de chômage, il y a beaucoup de précarité.
Il faut voir son maître, évidemment, et en Grande-Bretagne particulièrement. Vous avez des salariés qui ont des revenus à la fois très bas et très précaires. Beaucoup de salariés. Voilà. Alors, j'ai fini avec la description macroéconomique. Alors maintenant, je parle de des choses un peu plus incertaines. Les risques liés à l'incertitude. Alors, il y a une série de risques. Le FMI s'inquiète beaucoup sur le type de croissance, même si elle se porte relativement bien. Le FMI a fait deux scénarios qui sont tous les deux plutôt négatifs et un qui est particulièrement négatif. Bon, alors je vous le signale, mais les gens qui réfléchissent à l'avenir de la Grande-Bretagne en ce moment ont en tête ces deux scénarios potentiels. Alors, ensuite, on tombe sur des choses beaucoup plus sensibles qui jouent déjà. C'est sur qu'est-ce qui va se passer sur l'agriculture. Dans la mesure où la Grande-Bretagne, comme le reste de la France, est très aidée par l'Union européenne, est-ce que les agriculteurs britanniques vont retrouver le même type de subvention? Ce n'est pas sûr. Theresa May essaye d'être rassurante, mais le monde agricole, lui, est très inquiet. Et le risque, surtout, c'est sur la recherche, le monde de la recherche. Parce que là, les effets sont déjà visibles en Grande-Bretagne. Dans la mesure où vous avez beaucoup d'équipes de chercheurs en tout domaine qui sont impliquées dans des projets de recherche européens, eh bien, ces projets, souvent, il faut les renouveler ou il faut anticiper de nouveaux projets. Eh bien, aujourd'hui, les chercheurs britanniques sont systématiquement exclus dans les appels à projets européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépose des projets, des équipes hollandaises, françaises, allemandes déposent des projets pour avoir des financements dans toutes sortes de domaines. Systématiquement, les Britanniques ne sont plus présents dans ces appels de projets. Ce qui provoque en Grande-Bretagne d'ores et déjà un traumatisme pour ces équipes de recherche qui étaient habituées à travailler avec le reste de l'Europe. Et beaucoup de chercheurs sont en train de se délocaliser. Il y a beaucoup de chercheurs, du reste, étrangers en Grande-Bretagne, et ces chercheurs sont en train de partir. Et même des chercheurs britanniques, ayant la nationalité britannique, sont en train, pour continuer leur recherche, avec des financements adéquats, sont en train, donc, d'aller dans des universités européennes. Là, les effets, moi je n'en parle parce que je suis universitaire, j'en entends parler encore, mais il suffit de lire un peu la presse, universitaire et la presse spécialisée pour savoir que déjà là, les risques sont considérables pour la Grande-Bretagne. Je me permets d'y insister parce que c'est quand même un secteur extrêmement important pour l'avenir de la Grande-Bretagne. Alors ensuite, autre choc et autre risque potentiel, c'est, il faut en parler, même si c'est pas très drôle de parler des problèmes de défense, c'est vrai que la défense britannique comme la défense française étaient les deux principales secteur de l'Europe dans ce domaine-là, qui avait beaucoup d'accords de coopération, qu'est-ce que ça va devenir Il y a beaucoup d'incertitudes, là aussi, dans ce secteur d'activité. Alors, j'en arrive maintenant, toujours dans ma première partie, mais j'arrive à la seconde sous-partie, la première partie, si vous voulez. Voilà, qu'est-ce qui va être négocié entre Britanniques et Européens. Alors, il y a des points très chauds, dont on parle beaucoup en ce moment, puis il y a des points même, je veux dire, plus fondamentaux, qu'on sait qui sont là, qu'il faudra aborder, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui sont évoqués. Les points les plus chauds, les plus sensibles, aujourd'hui, alors c'est le premier point, bien sûr, quel type de relation commerciale, culturelle, scientifique, diplomatico-militaire avec la Grande-Bretagne, je vais y revenir, parce que là, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, il y a des choses, enfin, si vous connaissez des Britanniques qui travaillent en France, ou si vous connaissez des Français qui sont à Londres ou en Grande-Bretagne, tous ces gens-là, qu'ils soient Français ou Britanniques, se posent énormément de questions sur leur statut à venir. Hein. Et ils sont inquiets. Moi, je connais des personnes qui ont choisi, des Anglais qui ont choisi d'ores et déjà de prendre la nationalité française, parce qu'ils travaillent en France, vous voyez, pour en quelque sorte être sécurisés. Là, on voit bien que, s'agissant des droits de résidence, accès au travail, accès aux soins, aux études, tout cela, pour les Britanniques qui vivent en France, c'est un vrai problème, et réciproquement. Hein, parce qu'en Grande-Bretagne, à cause de l'UKIP, ce parti politique dont je parlais tout à l'heure, à cause du Brexit, vous avez un mouvement de xénophobie qui se développe. C'est-à-dire, on regarde de travers maintenant les étrangers qui vivent en Grande-Bretagne. Et eux ressentent, notamment, alors il y a une communauté qui est particulièrement visée, sont les Polonais. Les Polonais ne sont pas rassurés aujourd'hui quand ils sont en Grande-Bretagne. Et donc, vous voyez bien qu'il y a là aussi des choses qui se passent, et ça, c'est des questions très sensibles, très immédiates, qui font l'objet d'inquiétudes, et qui vont évidemment faire l'objet de négociations pour essayer quand même de rassurer un peu tout le monde. Mais la question est ouverte. Et puis, il y a ces 60 milliards, c'est quand même pas une paille, que les Britanniques devraient payer à l'Union européenne parce qu'ils sont engagés dans toute une série d'accords de coopération. Enfin, je ne fais pas le détail ici, mais ils doivent encore, en quelque sorte, 60 milliards. C'est quand même une somme relativement importante, et on sait que là-dessus, il peut y avoir des points de cristallisation assez forts avec la Grande-Bretagne. Mais les éléments les plus lourds, je vais maintenant les aborder, parce que ce sont eux qui vont faire l'objet de négociations pendant 2 ans, et on n'est pas sûr du tout que ces négociations aboutissent. Alors, il y a d'abord, je vais y revenir, parce que là, c'est le point central de la négociation, c'est dire pour les Britanniques, voilà, nous, on veut continuer à accéder au marché unique. Alors, je vais essayer de vous dire pourquoi c'est très important pour les Britanniques dans un instant. Et puis, pour le secteur financier, c'est le deuxième point, il y a ce qu'on appelle le passeport européen, bancaire ou financier, c'est un passeport. En deux mots, de quoi s'agit-il? Parce que les Britanniques sont encore dans l'Union européenne, toutes les banques, les grands investisseurs financiers qui sont à Londres, à la City, ont accès à l'ensemble de l'Europe. Et l'activité de la City, c'est quelque chose de très important, bien sûr. Hein, c'est quand même la première ou la seconde place mondiale selon le type d'activité considéré. Et si la Grande-Bretagne se sépare de l'Union européenne, tous ces investisseurs, toutes ces grandes banques qui sont à la City perdent cette possibilité d'accéder, en termes d'activité, à l'Union européenne. Actuellement, ils bénéficient de ce passeport européen. Donc vous voyez bien que ça devient quelque chose de très, très, très compliqué. Et donc, je vous donnerai quelques éléments tout à l'heure, mais on observe déjà depuis quelques semaines, quelques mois, des transferts d'activités, des transferts d'entreprises, des transferts de banques de la City vers l'Europe, d'ores et déjà, alors que la négociation n'a pas encore commencé, vous voyez. Bon, après, plus généralement, oui, pour la Grande-Bretagne, il s'agit de s'affranchir, et ça rejoint ce que j'ai dit en introduction, il s'agit vraiment de s'affranchir des règles imposé par Bruxelles, en quelque sorte, et que les Britanniques ne veulent plus en entendre parler. Voilà. Alors, je reviens sur le point le plus délicat, le plus sensible, et qui va faire l'objet vraiment de négociations très difficiles. C'est tout l'aspect relations économiques, relations commerciales, entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Alors, j'ai une partie un peu pédagogique pour commencer. Vous allez avoir plusieurs planches qui vont défiler, qui vont essayer de vous pointer du doigt en quoi ça va être difficile des deux côtés, mais surtout pour les Britanniques. D'abord, vous avez une ellipse qui représente une zone de libre-échange. La zone de libre-échange, c'est ce qui est à l'intérieur de l'ellipse. Alors, ensuite, les petits cercles, ce sont les pays. Alors, quand vous êtes dans une zone de libre-échange, vous voyez, il y a donc des échanges d'importation, d'exportation, de marchandises, de biens, de services, etc. Il n'y a pas de droit de douane. Pas de droit de douane, zéro, à l'intérieur de la zone. Bon. Par contre, si vous êtes à l'extérieur, vous êtes obligé de négocier avec chacun des membres de la zone pour fixer les droits de douane, importation, exportation. D'accord ? Et ce sont des accords de type bilatéraux. Chaque pays à l'extérieur de la zone doit négocier avec chacun des pays de la zone le type de droit de douane qui sera appliqué de part et d'autre pour les importations et les exportations. Bon, c'est clair, ce que je raconte. Pourtant, c'est pas trop compliqué, hein, c'est la pédagogie pas à pas, hein, je dirais. Ensuite, je vais venir sur des choses qui ressemblent à la situation qui va être la nôtre. Vous voyez qu'en haut, j'ai changé de titre. J'ai plus une zone de libre-échange, mais j'ai marqué Union douanière. C'est la situation de l'Europe des 28 aujourd'hui. Nous sommes en Union douanière. Alors, vous voyez la différence avec la planche précédente ? Alors, à l'intérieur de l'Union douanière, qui est l'ellipse, même situation, il n'y a pas de droit de douane. Mais à l'extérieur, regardez la différence. Je remets, regardez bien, hein, c'est visuel. Regardez bien la planche précédente. Vous voyez bien ? Accords bilatéraux. Et après, là, chaque pays extérieur négocie avec l'ensemble de la zone. Pas pays par pays, mais il y a une négociation, disons, avec Bruxelles, pour aller vite. Hein, puisque, encore une fois, l'Union des 28, pays européens, est en union douanière. OK ? Donc, on a ce qu'on appelle un tarif extérieur unique. C'est-à-dire que chacun des pays ne peut pas négocier ce qu'il veut comme tarif avec les pays qui sont extérieurs à l'Union douanière. C'est Bruxelles qui va négocier pour chacun des pays les droits de douane qui seront appliqués aux importations qui vont venir dans l'Union douanière, et le pays va nous expliquer par échange quels seront les droits de douane qui seront appliqués aux exportations de l'Union douanière vers ce pays. Vous comprenez ça ? Bon. Oui, donc on est dans un schéma un peu différent. Alors maintenant, vous allez peut-être mieux comprendre le problème qui se pose avec la Grande-Bretagne. Vous voyez, Jamie ? Grande-Bretagne. Alors, là, la Grande-Bretagne fait partie des 28 en ce moment. Vous voyez ? Donc, il y a un tarif extérieur. Et la Grande-Bretagne ne discute pas du tarif extérieur aujourd'hui. Ils sont appliqués, par exemple, aux importations qui viennent dans l'Union douanière. C'est Bruxelles qui s'en occupe. Alors, qu'est-ce que veut la Grande-Bretagne ? Maintenant, vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce qu'elle va être, en quelque sorte, des deux côtés. Vous voyez ? Elle veut toujours bénéficier pas de droit de douane à l'intérieur de la zone. Et puis, elle va pouvoir négocier ensuite, comme c'est indiqué, je ne sais pas, ça grésille, je ne sais pas pourquoi. Hein, j'espère que ça ne va pas sauter. Ça s'annonce mal.
C'est sérieux. C'est bilatéral.
Oui. Voilà. Et donc, la Grande-Bretagne, qui va être donc hors de l'Union européenne et donc hors de l'Union. Ah, il y a un autre micro.
Après, c'est fini.
Après, il n'y a pas d'autre micro. Mais je me demande si c'est autre chose. Enfin, bref. Donc, vous voyez qu'elle veut avoir deux positions qui sont finalement inconciliables. Elle veut bénéficier d'une liberté totale d'action pour négocier avec n'importe quel pays du monde en dehors de la zone. Et puis, elle veut être dans le confort de l'union douanière. C'est ça la position de départ de l'écart de la Grande-Bretagne dans ses négociations. Et il est clair que, évidemment, les Européens ne vont pas accepter cette situation. Ils ne vont pas accepter parce que... Comment ? Voilà, donc, si vous voulez, normalement, il y a un tarif extérieur unique qui s'applique pour tous les pays tiers, et la Grande-Bretagne veut s'affranchir complètement de ce tarif extérieur. Alors, la position européenne, c'est de dire, ben maintenant, puisque la Grande-Bretagne sort de la zone, de l'union douanière, eh bien, elle va avoir le même statut que n'importe quel autre pays. Il faudra qu'elle discute avec Bruxelles pour établir les tarifs douaniers, importation, exportation. Donc ça, c'est la position de l'Europe, telle que je vous le montre. Il n'est pas du tout évident qu'au bout de 2 ans, on arrive à cette situation, à un accord, et on risque plutôt pour la Grande-Bretagne de se retrouver dans une position... Alors, je reviens en arrière. Hop là. Qui serait celle-ci, c'est-à-dire être obligé, oui, de négocier avec chacun des pays de la zone à 27. Elle sera obligée de négocier avec chacun des pays de l'Union européenne, avec 27. Les tarifs extérieurs, c'est-à-dire les tarifs douaniers, importation, exportation. Or, on sait que, et c'est ça la très grande inquiétude, on sait que pour mettre au point des accords de libre-échange, enfin, des accords commerciaux concernant les droits de douane, pour 2 pays ou pour 2 zones économiques, souvent ça prend plusieurs années. Et en moyenne, c'est 7-8 ans pour aboutir. Les grands accords dont on parle, du type CETA, TAFTA, etc., c'est des accords multilatéraux. Mais ça sera un accord de ce type-là. Vous voyez, le CETA, on a mis 9 ans. Et ce n'est pas terminé. Le processus est toujours en cours. C'est-à-dire les rapports entre le Canada et l'Union européenne. Bon, donc vous voyez qu'il y a un gros problème là. Et personne ne peut dire aujourd'hui ce qui va se passer. Parce qu'encore une fois, un déclenchement de l'article 50 prévoit qu'on doit trouver un accord du type... Voilà. De ce type-là, au bout de 2 ans. Et très probablement, on n'y arrivera pas. Enfin, beaucoup pensent qu'on n'y arrivera pas. Voilà, ça, donc, je vous ai expliqué ce qui va faire le fond de l'affaire. Je ne parle pas des aspects politiques pour l'instant, je vais y revenir après. Là, je vous parle des 2 ans, donc on va parler beaucoup pendant les mois à venir, ce qui va être le cœur de la négociation. Alors que, évidemment, par ailleurs... Là, je vais dire des choses un peu différentes. On est dans un monde, sur le plan économique, très globalisé. Les interdépendances entre firmes sont très importantes. Les grandes firmes ont des filiales souvent dans plusieurs pays. Comme on dit en termes économiques un peu sophistiqués, la chaîne de valeur, c'est-à-dire en fait le processus qui permet la fabrication d'un produit, est très souvent internationalisé à travers des sous-traitants, etc. Et des filiales pour les grandes entreprises, c'est clair. Prenez Airbus, par exemple, c'est complètement évident. La chaîne de valeur est internationale. Donc là, vous voyez bien qu'on fait jouer des frontières. Ce que vous avez sur les yeux, ce sont des frontières qui ont de moins en moins de réalité économique. Donc ça pose énormément, évidemment, de questions. Alors, les Européens, eux, vous savez qu'on a nommé Michel Barnier à la tête de l'équipe qui va négocier avec la Grande-Bretagne. Michel Barnier est réputé comme étant, pour ces questions-là, un partenaire qui sera difficile pour les Britanniques. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a essayé de mettre en œuvre, pas forcément... avec beaucoup de succès, du reste, toute une régulation financière en Europe et donc en Grande-Bretagne concernant les marchés financiers et les grandes banques. Et donc, je ne rentre pas dans les détails, mais il a eu des relations extrêmement difficiles avec les Britanniques et avec la City. Et donc la City sait très bien à qui ils vont avoir affaire, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que ça va, ces négociations vont être corsées avec la nomination de Michel Barnier. Alors, pour les Européens, oui, pourquoi pas. Ça, c'est la position officielle qui a été énoncée non seulement par François Hollande, mais aussi par Angela Merkel. C'est de lier l'accès au marché intérieur cette zone, vous voyez, cette ellipse, d'accord, vous venez, mais à ce moment-là, la contrepartie, c'est la liberté de circulation des personnes. Or, justement, ceci est inacceptable pour les Britanniques, puisque le vote du Brexit, c'était précisément fermer les frontières, hein, notamment par rapport au mouvement migratoire. Alors, il y a aussi d'autres questions qui vont se poser pendant ces deux ans, c'est les 73 eurodéputés, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et puis, pour les Européens, ça c'est l'enjeu implicite, et je vais y revenir dans un instant, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la City ? Récupérer une partie des activités de la City, ça a commencé, c'est ce que je vais vous montrer pour le moment maintenant, je crois, voilà. Alors voilà quelques... comme je dis tout à l'heure, Theresa May a prononcé un discours très dur, à Brexit, au mois de janvier 2017. Eh bien, aussitôt après, on a eu des annonces de la part de très grandes banques qui bénéficient actuellement du passeport européen dont j'ai parlé tout à l'heure et qui ont décidé ou sont prêts à quitter la City pour aller à Francfort, à Paris, à Amsterdam ou dans d'autres capitales européennes pour fixer leurs activités et bénéficier donc de ce fait, de ce fameux passeport. Donc, vous avez quelques exemples, je ne vais pas les détailler. Enfin, c'est les plus grandes banques mondiales. Très grandes banques. J'aurai l'occasion d'y reparler, peut-être d'en reparler tout à l'heure. Bon, vous voyez que c'est quand même à chaque fois beaucoup d'emplois qui sont concernés. Il ne se passe pas de semaine où il y ait des annonces de cette nature. Pour ça, spécifiquement la City. Voilà. Alors, je crois que j'ai terminé avec cette première partie, voilà, je suis à peu près dans les temps, je voudrais maintenant aborder peut-être un peu plus rapidement la seconde qui va poser davantage des problèmes sur un plan politique. Alors, avec, vous voyez, deux points. Est-ce que, s'agissant de l'Europe cette fois-ci, on a parlé beaucoup de la Grande-Bretagne, mais il y a le problème de l'Europe par rapport à ce Brexit. Est-ce qu'on ne va pas quand même vers un processus où l'Europe risque de disparaître, se dissoudre ? Le risque, il a été évoqué à plusieurs reprises, je vais dire en un mot, soit par la voie politique, c'est-à-dire, en fait, sous l'effet de certains votes. Imaginons, par exemple, que Marine Le Pen arrive à la présidence de la République, elle a tout à fait annoncé qu'elle quitterait... l'Union européenne, avec notamment, elle quitterait la zone euro. Donc, à nouveau, en quelque sorte, Brexit, mais à la française. Il n'est pas impossible que dans certains pays de l'Est, on ait ce type de référendum dans les prochains mois aussi. Ou alors une dissolution, j'en parlais aussi dans l'introduction, à cause d'une crise financière qui, une fois de plus, secourait la zone euro et notamment la zone euro, comme ça a été le cas en novembre 2012. Alors, bon, ça c'est une première perspective qui est plutôt négative, et la seconde perspective c'est essayer de voir si dans les projets qui sont actuellement avancés, il n'y a pas une façon de refonder l'Europe sur d'autres bases. Mais là, ça devient évidemment plus compliqué. Je vais essayer de vous en dire un mot. Il y a des perspectives qui refondent l'Europe, mais de façon très marginale, de façon limitée, de façon molle, si vous voulez. Et puis, il y a des perspectives beaucoup plus radicales. J'essaierai d'en dire un mot également. Alors, d'abord, sur les menaces de dissolution. Alors, il y a eu le Brexit, d'accord, mais le Brexit est toujours à l'ordre du jour. La sortie de la Grèce, de la zone euro et donc de l'Union européenne est toujours à l'ordre du jour. Depuis le déclenchement de la crise grecque, mars 2010, hein, on est en mars 2017, ça fait 7 ans que ça dure, périodiquement, année après année, la Grèce se trouve dans des situations toujours extraordinairement difficiles, et je dirais même de plus en plus difficiles, par rapport à sa situation économique et surtout sa situation de dette. Les Européens n'arrivent pas à énoncer quelque chose qui pourtant est évident aux yeux de quantité d'acteurs politiques ou économiques, même financiers, à savoir l'aménagement de la dette grecque, soit par effacement partiel, soit par ce qu'on appelle un mécanisme de restructuration. Pour l'instant, les Européens n'arrivent pas à aller dans cette direction, ce qui accroît d'année en année le problème de la Grèce. Et donc, périodiquement, on parle du Brexit, toujours à l'ordre du jour. Alors, il y a aussi des tentations de left exist, ou de l'exit, mouvements qui sont portés plutôt par des mouvements qui sont politiquement à gauche, voire à l'extrême gauche. On sait très bien, par exemple, que, par exemple, en France, Jean-Luc Mélenchon, il se pose quand même beaucoup la question de savoir, dans son programme électoral, s'il n'obtient pas un accord avec l'Allemagne, sur des points qu'il juge essentiels, s'il ne faudra pas quitter la zone euro et donc l'Union européenne. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le Lexit, l'Eftexit. Et il y a beaucoup de mouvements en Europe qui ont le même type de positionnement et qui disent, tant que l'Europe continue cette politique économique qui est la sienne, qui nous mène droit dans le mur, eh bien, il faudra un moment, si la barre n'est pas redressée, quitter la zone euro, voire l'Union européenne. Voilà, alors il y a d'autres mouvements qui en Europe suivent ce type de raisonnement, et il n'est pas impossible qu'à un moment ou un autre, on ait un pays de l'Est, ou même l'Italie, ou même l'Espagne, parce que, vous savez, l'Italie et l'Espagne sont des pays qui sont en situation économique très difficile, et qui ont une dette considérable, et il y a des tentations, évidemment, de dire, attention, si l'Europe continue dans cette perspective de gestion néolibérale, il faudra bien l'éviter. Et puis, il y a des mouvements nationalistes d'extrême droite qui ont, d'une certaine façon, un raisonnement du même type, mais pour des raisons totalement différentes. C'est pour des raisons de xénophobie, notamment. Donc, il peut y avoir des raisons économiques, sociales, d'un côté, puis des raisons xénophobes, de l'autre. Alors, ensuite, il y a, sur le plan politique, deux questions très graves qui se posent à la Grande-Bretagne et à l'Europe. C'est à la fois la question écossaise et la question irlandaise, qui posent des questions vraiment politiques. L'Écosse a voté majoritairement contre le Brexit. Je crois que c'est ce qui est dit ici. Oui, près de 60%. Et donc, la responsable, le gouvernement écossais avec sa responsable, qui s'appelle Nicola Sturgeon, milite en ce moment, et elle s'oppose à Theresa May sur ce plan-là, pour qu'il y ait un nouveau référendum en Écosse, qui non seulement établirait l'indépendance de l'Écosse par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport à l'Angleterre, et qui permettrait à l'Écosse de rester dans l'Union européenne. Alors évidemment, ça c'est le démantèlement de la Grande-Bretagne, c'est le démantèlement du Royaume-Uni, de l'Union Jack, comme on dit aussi. Cette perspective politique est très inquiétante, évidemment, pour les Anglais. Parce que d'un seul coup, évidemment, tout à l'heure on a vu déjà que la Grande-Bretagne se trouvait, c'est un exemple, à la 7e place mondiale, mais d'un seul coup, évidemment, sa place dans l'économie monde serait encore beaucoup plus basse. Hein, c'est une façon de dire les choses. Bon. Donc, voilà, on a devant nous, et c'est en train de se discuter, la perspective d'un nouveau référendum d'indépendance de l'Écosse par rapport à l'Angleterre. Voilà. Et cette perspective, évidemment, va jouer un rôle dans les futures négociations. Et les Écossais aimeraient bien que, dès l'année prochaine, un tel vote puisse être organisé. Alors, même chose avec la question irlandaise, avec, là, cette fois-ci, une charge symbolique et politique peut-être encore plus lourd. Parce qu'actuellement, l'Irlande, vous savez, composée de deux parties, et ces deux parties sont dans l'Union européenne. Et il se trouve que l'Irlande du Nord a voté également contre le Brexit. Si l'Irlande reste attachée au Royaume-Uni, on va rétablir de nouveau une frontière en Irlande, avec tous les risques potentiels politiques que ça risque de poser. La Grande-Bretagne a pu, d'une certaine façon, se sortir de ce guépier il y a maintenant une dizaine d'années, mais ce guépier risque de réapparaître si l'Irlande du Nord suit la Grande-Bretagne dans le Brexit, alors que le vote majoritaire était contre le Brexit. Donc là, on a une situation potentiellement extrêmement dangereuse avec la situation irlandaise. Oui, c'est vraiment des questions politiques. Bon, c'est ce qui est dit ici de façon un peu plus détaillée. J'ai résumé. Alors, ensuite, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'ici 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses hein, dans le monde économique et surtout financier. Le monde est probablement, comme je le disais en introduction, à la veille d'une nouvelle crise financière majeure. Pourquoi ? En deux mots, c'est indiqué ici, la raison principale, beaucoup d'économistes l'évoquent, c'est ce qu'on peut appeler l'éclatement de la bulle obligataire mondiale. Tous les grands pays, aujourd'hui, sont surendettés. On le voit en France, mais on le voit en Bretagne, on le voit aussi en Allemagne, on oublie de le dire. L'Allemagne est sortie des critères de Maastricht depuis très longtemps du point de vue de son endettement. Mais le Japon, les États-Unis sont des pays surendettés. Pourquoi ils sont surendettés ? À cause des effets de la crise financière. Il a fallu que les États interviennent lourdement dans leurs économies, non seulement pour aider les banques, pour les recapitaliser, etc., mais aussi pour soutenir l'activité économique. Ça s'est fait à des coûts de milliers de milliards de dollars, milliers de milliards d'euros. Et le résultat, c'est qu'on a des dettes publiques qui se sont littéralement envolées depuis 2007-2008. Et ces dettes, c'est, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, ce sont des titres financiers, ce sont des obligations. Et ce qui menace le plus ces obligations, ces titres financiers, c'est une perte de valeur brutale de ces titres sous l'effet d'une remontée des taux d'intérêt. Si vous avez une remontée des taux d'intérêt, je n'entre pas dans le mécanisme, hein, c'est un peu compliqué, si vous voulez que je le fasse, je le ferai, mais je ne suis pas sûr que ce soit facile à comprendre. Mais j'indique le mécanisme. S'il y a une question là-dessus, je vous répondrai. C'est ça qui risque de faire exploser la bulle en question. Si vous avez une remontée un peu brutale des taux d'intérêt, les titres financiers en question, d'un seul coup, vont perdre leur valeur et ces titres sont pour l'instant essentiellement logés dans les grandes banques et les grands investisseurs institutionnels. Et donc, d'un seul coup, vous pouvez avoir une faillite d'une très grande banque. Et en 2008, c'est la faillite d'une grande banque, Lehman Brothers, qui a mis le feu à la planète. On voit bien que là, on est sur quelque chose de lourd. Et les marchés financiers le savent parfaitement. Hein. Le jour où il y aura la moindre débandade sur le marché obligataire, la chute risque d'être très brutale, la valeur de ces titres risque d'être très brutale. Et à ce moment-là, l'effondrement classique, qu'on connaît bien maintenant, depuis une vingtaine d'années, ça sera une nouvelle crise financière, probablement beaucoup plus importante que celle qu'on a connue en 2007-2008. Voilà, alors, évidemment, ça, là, on est devant un chaos potentiel, surtout avec la situation politique qu'on connaît en Europe, notamment, mais aussi en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis. On a déjà des replis identitaires, des recherches de boucs émissaires, notamment à l'étranger, des situations intérieures. Imaginez un chaos supplémentaire sur le plan financier ou économique, les effets sociaux et politiques risquent d'être considérables. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Donc, voilà. Donc, pour l'Europe, ça sera la fin de l'Europe. tout simplement. La fin de la zone euro. Là, on peut l'imaginer. On l'imagine très facilement. Alors, maintenant, essayons d'être un peu plus positifs, après ce passage un peu douloureux que vous venez d'entendre. Je vais terminer par ces points. Alors, il y a évidemment, depuis l'annonce du Brexit, beaucoup de choses qui ont été avancées, qui commencent à se réaliser, d'autres idées qui émergent. Alors, un mot, du côté de l'Allemagne, le SPD, qui va peut-être arriver au pouvoir en septembre prochain, a déjà annoncé un plan en 10 points pour refonder, renouveler l'Europe. Il y a la tentative de Tsipras, depuis maintenant presque 2 mois, de fédérer les pays de l'Europe du Sud en disant « ça suffit ». Et voilà les conditions qu'il faudrait mettre en avant pour sortir de la situation actuelle, donc autour des pays de l'Europe du Sud. Ensuite, assez vite, la fondation Bruegel, qui est un centre de recherche belge qui a une influence certaine, a préconisé dès le lendemain du Brexit l'idée qu'il faudrait créer un nouveau cercle de pays dans l'Europe pour aller un peu plus vite en matière d'intégration européenne sur des points clés. Et donc le cercle principal serait constitué des plus grands pays européens. Et puis, là c'est concret, le plan Juncker qui a été lancé en 2015 a été gonflé en quelque sorte. Initialement il était de l'ordre de 300 milliards, il est monté à 500 milliards après le Brexit, pour des financements allant jusqu'en 2020. Donc là aussi, on tient compte, en quelque sorte, de ce choc en offrant une assise financière plus importante pour des projets nouveaux. Et puis, aujourd'hui, et c'est ce qui va être discuté mois d'avril, comme je l'ai annoncé au début de la discussion, c'est le terme est consacré, c'est une Europe différencié, probablement à plusieurs vitesses. Alors on ne parle pas de coopération renforcée, parce que le terme est inscrit dans les traités européens, coopération renforcée. Vous voyez que le terme est différent, on dit différencié. Hein ? Parce que la coopération renforcée, elle est possible déjà dans les textes, mais il faut qu'on soit au moins 11 dans les textes pour qu'une telle coopération puisse avoir lieu. Alors là, on parle d'un être juridique inconnu, qui est l'Europe différenciée. Alors, on n'a pas besoin d'être 11, puisque sinon, on serait canassé par les textes. Donc l'idée d'une Europe différenciée, qui a été lancée par la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, 4 pays, est de dire, ben voilà, on va faire un cercle, à nous 4, peut-être à plus, si d'autres pays veulent nous rejoindre, et on va aborder donc une série de questions, vous voyez. Alors d'abord, et malheureusement, je dirais, la défense, mais aussi les questions touchant l'harmonisation fiscale, sociale, et les questions de financement de transition énergétique. Donc ça serait le paquet qui serait mis en quelque sorte en commun entre ces pays. Tout ceci va être discuté le 6 avril prochain, les débuts. On a une amorce de ce que pourrait être cette Europe différenciée. Le 6 avril, probablement, on aura des annonces peut-être sur cette question, avec quelques pays qui sont prêts à avancer sur ces terrains-là. Le 25 mars, c'est samedi prochain, comme c'est dit ici, probablement à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome, il est probable qu'il va y avoir des discussions, peut-être qu'on aura aussi des annonces autour de ce problème de l'Europe différenciée. Alors, évidemment, cette façon de voir suscite tout de suite des critiques, hein, comme je l'ai marqué ici, notamment des pays de l'Est qui risquent de ne pas vouloir entrer dans ce type de processus, tout simplement là aussi pour des réflexes identitaires, hein, qui sont encore une fois liés aux problèmes migratoires, à ces nationalismes qui sont exacerbés. Eh bien, ces pays de l'Est évoquent de plus en plus l'idée que si on a une Europe différenciée, on va créer un nouveau rideau de fer en Europe. De critiquer le processus en question. Donc voilà les questions qui sont devant nous dans les prochaines semaines, qui vont être très largement, je pense, évoquées dans les prochaines réunions européennes. Alors, est-ce que ceci va suffire, étant donné la crise dans laquelle nous sommes, cette multicrise dont je parlais en introduction? La planète, c'est pas simplement l'Europe, c'est pas simplement la Grande-Bretagne, c'est pas simplement les États-Unis, eh bien, connaît une crise gravissime. Bon, alors, on a une première proposition qui est très à gauche, avec Yanis Varoufakis, qui propose Diem 25. Diem 25, c'est l'idée qu'il faut refonder, notamment l'Europe, par un processus démocratique. C'est la seule voie possible pour sortir des questions aujourd'hui. Et donc, ce mouvement prévoit, il est très organisé à l'échelle européenne, prévoit trois étapes. D'abord, une étape avec une assemblée constituante. D'abord, une transparence des décisions jusqu'en 2020. Ensuite, une assemblée constituante. Et puis, ensuite, mise en œuvre, évidemment, des décisions de cette assemblée en 2025. C'est ça que le mouvement s'appelle Diem 25. Donc là, il y a une première perspective, qui est quand même marquée à gauche, pas certain que ça soulève l'enthousiasme des foules pour l'instant, mais il y a une série d'initiatives politiques qui se prennent autour de cette perspective. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'à un moment ou un autre, mais l'espoir est faible, qu'il y ait une mobilisation des mouvements sociaux en Europe par rapport à toutes ces questions. Le mouvement social, c'est à la fois des syndicats, des organisations. Alors, on l'a vu dans certains pays, depuis une dizaine d'années, ce mouvement social menait des opérations spectaculaires qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment donné à l'échelle européenne, voire mondiale, les effets sans doute escomptés. Mais, on ne peut pas complètement exclure qu'à un moment ou à un autre, une telle mayonnaise, en quelque sorte, de ces mouvements puisse prendre. Et à ce moment-là, peut-être, comme on ne le fait pas en ce moment, essayer vraiment de poser les questions qui concernent, je dirais, bon, et c'est moi qui parle là, ce qui fait le fond des crises qu'on connaît à répétition maintenant, depuis plusieurs années, et vers lesquels nous risquons de nouveau d'aller si on reste sur les mêmes logiques. Donc c'est la raison pour laquelle il faut probablement qu'on réfléchisse davantage, je ne suis pas le seul, d'autres aussi le font, au rôle de la finance dans cette économie mondialisée qui a pris le pouvoir par rapport aux États, ce qui explique en grande partie les marges de manœuvre politiques quasiment inexistantes aujourd'hui des États dans le monde, depuis à peu près une dizaine d'années. C'est la thèse que je défends, qui a été reprise par d'autres économistes également. On a affaire à un oligopole, c'est-à-dire à de très très grandes banques, qui par leur dimension, leur puissance, arrivent complètement à phagocyter les États dans leur politique économique, en fonction de leurs propres intérêts. Donc là, on a un vrai problème. Donc ça, c'est propre du monde de la finance, mais il y a aussi le monde du travail, c'est ce qui est dit ici, je crois. Il y a le monde de la monnaie, également, qui mérite d'être organisé à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de monnaies complémentaires, des monnaies locales qui fleurissent un peu partout. En Ariège, vous en connaissez plusieurs, mais en France, il y en a plusieurs centaines, et à l'échelle mondiale, on est à peu près à 5000 monnaies locales. Le problème monétaire est intéressant de ce point de vue-là parce qu'on voit très bien que sur un même territoire peut coexister à la fois des monnaies locales qui sont porteuses de projets spécifiques et des monnaies nationales. En France, c'est la monnaie unique. Et on peut imaginer qu'à l'échelle internationale, on est aussi une organisation monétaire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, après Keynes et d'autres travaux portant sur le système monétaire international, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une monnaie internationale, pas unique, mais commune, comme on dit, qui laisse subsister d'autres monnaies. Et donc, il y a là une voie, à mon avis, tout à fait féconde, parce que la monnaie, c'est très important. Hein. La monnaie, la question monétaire, on le voit bien avec les monnaies locales, c'est une monnaie crédit. La monnaie est créée qu'à l'occasion du crédit. Et le crédit, derrière un crédit, il y a toujours un projet. Et donc, si on veut favoriser de nouvelles activités, de nouveaux projets, on a besoin de monnaie légitime, de monnaie démocratisée, en quelque sorte. Et donc là, il y a une voie féconde. On n'est pas du tout dans cette perspective aujourd'hui, en Europe avec la Banque Centrale Européenne, en Angleterre avec la Banque of England, ou aux États-Unis ou au Japon, où on a des banques indépendantes des États, on a une création monétaire qui se fait dans les systèmes bancaires, et on s'aperçoit que malgré le déversement de liquidités qui existe sur les marchés financiers, ça ne touche pas l'économie réelle. Donc il faut renverser la façon de comprendre le rôle de la monnaie aujourd'hui dans nos économies, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un nouveau système monétaire international. Même chose sur le travail. Bien sûr, il y a des gens qui sont heureux dans leur travail, mais quand on regarde le monde de l'entreprise aujourd'hui, qui est essentiellement un monde de la moyenne, de la très grande entreprise, on a affaire à des entreprises de type capitaliste, où on crée de la valeur, mais c'est de la valeur pour les actionnaires, et où les relations de subordination sont toujours très prégnantes, ce qui explique les burn-out, les management par la terreur, comme on dit, parfois. Bref, le monde du travail aussi a besoin d'être refondé. Ce sont des questions, évidemment, qu'on sent bien. Voilà. Et je termine en disant qu'il y a un lien très fort hein, entre ces questions touchant le travail, la monnaie et la démocratie. La démocratie, elle peut se déployer grâce, justement, à une reprise en main par les citoyens de la création et de la gestion de la monnaie. Et donc, on voit bien les liens qu'il y a à ce niveau-là. Même chose, dans l'entreprise, il faut changer fondamentalement. Et certains candidats à la présidentielle, enfin, il y en a qu'un surtout, je crois, qui propose qu'on revoie le statut des conseils d'administration actuels pour faire participer davantage les salariés aux décisions. Je crois qu'il faut, là, on sent bien. Il n'y a aucune raison pour que ce soit uniquement ceux qui possèdent des capitaux qui aient le pouvoir dans l'entreprise. Aucune raison. Sauf, évidemment, à dire « Ah ben oui, le profit, c'est le revenu d'un facteur de production comme un autre. Le travail touche des salaires, c'est un revenu d'un autre facteur de production. » Et bref, il y a une façon de légitimer le profit qui, à mon avis, doit être complètement remise en cause. Donc là aussi, dans l'entreprise, revoir la façon dont les décisions se prennent. Voilà toutes ces questions, à mon avis, que notre monde nous pose aujourd'hui à nous, citoyens. L'occasion du Brexit est évidemment un moment où on doit peut-être, il faut espérer, qu'on puisse repenser ces questions. Et je vous remercie de votre attention. Je pense que la règle du jeu, comme d'habitude, c'est qu'ensuite, maintenant, on ait des questions. Oui. Je vais boire un tout petit peu d'eau, parce que... Excusez-moi, c'est la pause.
Ah.
Alors.
Si, ça y est, j'ai ouvert. Ça y est. Parfait.
Alors, qui commence les premières questions? Une vers là-bas.
Allez-y, madame. Non, c'est vous, oui.
Oui, c'est toi.
J'ai une question par rapport à Airbus.
Oui.
Airbus, a une branche à Bristol, en Grande-Bretagne. À votre avis, qu'est-ce qui peut advenir de la collaboration avec la Grande-Bretagne, enfin, Fibola?
Oui, ben, d'abord, évidemment, il y aura, comme c'est déjà le cas de reste, toujours un problème de taux de change. Parce que, bon, alors évidemment, Airbus, c'est un complexe où les négociations ont eu déjà lieu au sein du groupe pour les différents éléments qui sont fabriqués en Espagne, en Grande-Bretagne, notamment en Allemagne. Donc il y a déjà des accords, mais il est clair que si il y a des droits de douane nouveaux, ils risquent de s'appliquer, notamment lorsque ces composants viendront de Grande-Bretagne en France. Il est très probable qu'il y aura des droits de douane, sauf accord particulier, mais ça serait la logique. Donc il y aurait un renchérissement probablement du coût de fabrication des Airbus. Ça me semble à peu près clair. Il y aura des droits de douane très probablement. Bon, donc, à moins que les accords soient revus complètement, c'est un problème pour Airbus que de gérer effectivement les relations avec les Britanniques, avec le reste, avec l'Espagne ou l'Allemagne, il n'y a pas de souci puisqu'on est dans la zone euro. Airbus vend ses avions en dollars, donc elle est très dépendante, en fait, c'est une variable stratégique essentielle pour Airbus. Le taux de change euro-dollar est fondamental pour la stratégie d'Airbus, puisqu'elle vend ses avions en dollars et que ses coûts sont essentiellement en euros et pour une faible part en livres sterling. Bon. La variable stratégique, c'est bien plutôt le taux de change euro-dollar si l'euro continue évidemment sa course. Hein. Le jour où l'euro disparaît, évidemment, à ce moment-là, on a d'autres. On aura d'autres problèmes à régler. C'est clair.
Ça rage le bruit.
Comment ?
Ça rage le bruit.
Oui, bien sûr.
Pour les Américains.
Oui, ça rangerait le bruit, certainement.
Attends une seconde. Madame et puis monsieur.
Allez-y. Non,
c'est aussi... un commentaire.
Ah non, d'abord madame peut-être. Ensuite vous, monsieur, oui.
Mais non, c'était juste un commentaire
pardon.
Sur la question.
Oui.
Le prix de vente des Anglais va baisser puisqu'il sera en livre.
Oui, le prix de vente va baisser, mais il y aura des droits de douane. Alors, est-ce que ça compensera ou pas? C'est vrai, vous avez raison.
Mais si... Je crois bien que les Anglais ne sont plus au capital d'Airbus. Et Airbus a déjà délocalisé une grande partie du fuselage qui était fait en France vers le Maroc. Et Airbus peut aussi décider de délocaliser les ailes au Maroc.
Je croyais qu'il restait encore quelque chose en Angleterre.
Il reste les ailes ?
Oui, il reste les ailes, oui, bien sûr. Oui, oui Airbus n'est plus au capital. Les Anglais ne sont plus au capital. Il n'y a que les Allemands, pour l'essentiel, et les Français, avec après des petites participations espagnoles. Oui.
Et après, à toi.
Ça ne
marche pas.
Ah ben oui, bien sûr, c'est pas branché.
J'ai une question concernant combien des années pour le Brexit. Alors, à votre avis, c'est difficile à dire.
C'est difficile à dire, non. Et ce qui est certain, c'est qu'on a 2 années, ça c'est l'article 50, hein, 2 années de négociation. Si au bout de 2 ans, ça c'est le traité qui le dit, hein, si au bout de 2 ans, il n'y a pas d'accord avec les Britanniques, on considérera la Grande-Bretagne, ou ce qu'il en reste, comme un pays tiers, comme n'importe quel autre pays, et il faudra qu'elle... Alors, il y a 2 possibilités, soit la Grande-Bretagne pourra continuer à discuter avec l'Union européenne, l'Union douanière, hein, dont j'ai parlé, à mon avis, ça risque d'être plutôt compliqué, parce que c'est justement cela l'objet... Et 2 ans, c'est de pouvoir discuter à deux, en quelque sorte. Bruxelles avec Londres, si je puis dire, pendant 2 ans. Sinon, après, ce sera Londres avec 27 partenaires potentiels. C'est complètement différent. Et là, on est sur un processus difficile, long pour les Anglais, long pour tout le monde. Hein, long pour tout le monde, aussi pour les Européens.
Bruno ?
Oui, moi, normalement, j'ai 2 questions à réponse très, très courtes.
Oui, bon, prends le micro, s'il te plaît.
2 questions à réponse très, très courtes, puis ça intéresse peut-être pas tout le monde. La diapo sur le taux de change de la livre depuis, avec la cassure au moment du Brexit, l'unité, c'était taux de change livre-euro ou livre-dollar ?
Non, il y a les deux. Je l'ai dit, du reste.
C'est là.
Là. Vous voyez, il y a 9%.
Oui, non, mais sur la figure.
Ah non, c'est avec le dollar.
C'était avec le dollar,
c'est le dollar.
Oui. Et ma deuxième question, je n'ai pas réussi à tout comprendre concernant le Sinn Féin et sa position anti-européenne ou...
Elle est européenne. Elle est européenne.
Alors, j'ai cru lire anti-européenne sur la...
Ah, pardon. Alors, peut-être que j'ai fait une erreur aussi dans ma présentation.
Au départ, ils étaient anti-européens.
Ah, au départ, ils étaient anti-européens, ça, c'est clair. Ah, oui, oui.
Et donc, il a changé, en fait...
Oui, oui. Et ils sont pour le Brexit. Eux, ils sont contre le Brexit. Pardon.
Merci.
Voilà, bon, pardon.
Il y avait madame à la porte, et après, on viendra. Bon,
tout d'abord, je voulais féliciter le gouvernement anglais qui a respecté le vote du peuple.
Le vote du peuple.
Voilà. Ensuite, il y a bien des pays qui ne sont pas à l'Union européenne et qui ont des accords déjà avec l'Europe. Donc, ils ont bien pu trouver des accords. Pourquoi les Anglais ne trouveraient pas ces heures d'accord? Car je pense que les Anglais seront bien négociés par rapport à l'Europe.
Oui,
l'Europe a besoin d'eux de toute façon.
Non, non, mais je pense que l'intérêt est commun de pouvoir trouver un accord. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en quelque sorte, on remet les compteurs à zéro quand on engage ce type de négociation. C'est l'intérêt même du Brexit, d'une certaine façon. Les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne. Donc, plus aucune règle de l'Union européenne ne s'applique normalement à eux. C'est clair. Donc, on voit bien que ça crée déjà, tout de suite, pour les Britanniques, une situation extraordinairement nouvelle. Pour l'Europe aussi. Hein. Bon. Et donc, à partir du moment où on reprend les choses à la base, il faut tout renégocier. Tout. Hein, par rapport à l'existant. Donc, c'est considérable. C'est considérable. Vous voyez, encore une fois, je prends l'exemple du CETA parce que c'est un pur accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Pur accord de libre-échange. C'est-à-dire, on discute sur les biens et les services. Et on regarde comment on peut s'entendre pour savoir quels biens et quels services on peut échanger dans des conditions qui soient, pour chacun des partenaires, acceptables. 9 années. Et c'est pas terminé. On est toujours dans un processus de ratification qui risque de prendre un peu plus d'un an. Ça va faire 10 ans. Donc, vous voyez, le Canada, par rapport à le Canada pèse moins lourd que la Grande-Bretagne en termes de poids économique. Vous voyez? Donc, ça vous donne quand même des ordres de grandeur qui font froid dans le dos. Hein.
Monsieur.
Une question concernant le Commonwealth. Quelles sont les conséquences politiques et économiques pour les pays du Commonwealth?
Et là, le Commonwealth concerne essentiellement les rapports entre la Grande-Bretagne et les pays qui en font partie. Hein. Moi, j'ai rien vu de particulier sur... vous savez, les rapports sont très variables d'un pays à l'autre avec la Grande-Bretagne. Les rapports sont plutôt distendus. Hein. Il n'y a plus d'empire colonial britannique. C'est fini. Prenez le Canada... Bon, les liens sont extraordinairement lâches. Moi, en tous les cas, en tant qu'économiste, je n'ai rien vu qui aurait un impact particulier, enfin que Commonwealth aurait un impact particulier dans cette négociation.
Madame. Et ensuite, monsieur.
Je voulais d'abord vous remercier pour la clarté de votre exposé, parce que pour la profane que je suis, j'ai l'impression d'avoir compris. Alors, nous nous intéressons en ce moment à la campagne présidentielle, donc j'aimerais avoir un peu vos éclaircissements. Vous parliez là, dans la deuxième partie de l'avenir de l'Europe entre dissolution et refondation, et donc parmi nos candidats, on connaît plus ou moins leur position. Alors, pour schématiser, Le Pen veut sortir, Fillon et Mélenchon pour un statu quo. Schématise.
Pour Macron. Macron ou Mélenchon?
J'ai fait un lapsus. Oui. Pour Fillon et Macron. Pardon, ce que j'ai dit, on oublie. Et Mélenchon, vous savez qu'il a un plan A. Qui consiste à renégocier pour pouvoir tout simplement appliquer son programme écologique et social. Et si les négociations échouent, il a donc son plan B, qui consisterait à sortir. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur cette stratégie, sur la stratégie de Mélenchon.
Ah, vaste, vaste question. Bon, mon point de vue, c'est que, effectivement,
on a bien... Économiste, bien sûr.
Oui, je suis économiste, je vais vous donner un point de vue d'économiste, enfin, je suis citoyen aussi. Donc, vous savez, je fais de l'économie politique, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de travailler à la fois sur les liens qui peuvent exister entre l'économie et la politique, et de voir comment les deux interagissent. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais puisque votre question est plutôt de nature à la fois politique et économique, on est en plein dans le sujet. Oui, on connaît la position de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez parfaitement résumé, et je crois que son diagnostic est assez précis. Il estime que l'Europe, pour l'instant, avec d'autres, je crois que Hamon n'est pas très loin de partager aussi ce sentiment, que l'Europe va droit dans le mur avec les politiques dites néolibérales qui sont actuellement menées, qui font une très grande confiance aux équilibres budgétaires, par exemple, je prends la casquette de l'économiste. Ces politiques ne sont absolument pas keynésiennes. Ce sont des politiques qui nous expliquent, ces politiques néolibérales, que une façon de pouvoir relancer la croissance économique, c'est d'abord d'assainir les finances publiques, les équilibres budgétaires. Donc, d'où la règle des 3%, vous connaissez tous. Et donc, on sert le kiki à tout le monde. Avec des politiques extrêmement rigoureuses sur le plan budgétaire. Et puis on vous explique, ça c'est le langage de Fillon, en plus, qu'on a une dette colossale et qu'il ne faut pas jouer avec ça. Bon, ça, on est en plein dans le néolibéralisme. Alors à cela, on peut répondre la chose suivante. Et vous avez dit que je faisais. Où il est Bernard ?
Là-bas, au fond.
Ah, il est au fond. Bernard.
Et quand ? Toujours au fond.
Oui, oui. Bernard a expliqué que je faisais partie initiateurs de ce mouvement qu'on appelle les économistes atterrés. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'adhère absolument pas à cette vision des choses, dans la mesure où, pour moi, les dettes actuelles ne viennent pas d'un laxisme budgétaire. Il faut comprendre d'abord qu'une dette, c'est l'accumulation de déficits qui se font année après année. Une dette, c'est un stock. Alors que les déficits sont des flux annuels. Et quand on fait un déficit, par exemple cette année, on va faire à peu près 80 milliards de déficit, ces 80 milliards vont s'ajouter à une dette de 2200 milliards. Et la dette se mesure par des titres financiers dont on peut mesurer la valeur, qui est de 2200 milliards aujourd'hui. Bon. Or, quand on regarde l'évolution de la dette aujourd'hui, en France, mais pas seulement en France, dans tous les pays européens, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, on s'aperçoit qu'il y a une coupure, une cassure en 2007-2008, au moment de la crise financière. Vous aviez une évolution de la dette, c'est des graphiques, mais que je ne vous ai pas présenté. Vous avez la dette qui monte un peu par rapport au PIB, puis 2007-2008, tac, comme ça, vous voyez, brutalement. Donc, de deux choses l'une. Ou bien on croit, comme les néolibéraux, que la dette, elle provient d'une gabegie des finances publiques accumulées depuis des décennies. Et qu'à ce moment-là, ben, il est nécessaire, au bout d'un certain temps, ben, en effet, si on veut commencer à la rembourser, d'avoir une rigueur budgétaire, ne plus faire de déficit, même à la limite être en excédent, ben, là c'est le paradis, pour commencer à diminuer un petit peu le montant de la dette. Parce que sur la dette, on paye des intérêts, et les intérêts représentent soit le premier, soit le deuxième poste budgétaire de la France. Dans le budget de l'État, les intérêts sont très lourds. Donc, évidemment, c'est assez légitime de vouloir réduire le poids de la dette. Donc ça, c'est le premier discours. Donc, c'est le discours que vous entendez. Fillon est excellent sur ce sujet. C'est le meilleur. La dette, c'est épouvantable. Il faut donc être rigoureux. Enfin, rigoureux. Vous avez bien compris. Pour les Français, pas forcément. Bon, pour lui. Bon. Donc, Patrick Mignard veut prendre la parole.
Non, pas encore. Non.
Bon, donc, voilà, ça a été la campagne de Fignon, mais Macron n'est pas très loin hein, sur cette ligne. On n'a pas entendu Emmanuel Macron vous expliquer qu'il allait lâcher la bride en matière budgétaire, avec un peu de déficit quand même au départ, mais ensuite, évidemment, il faudra être plus sérieux. Alors, l'autre vision, c'est de dire, mais attendez, dans l'évolution de la dette, il y a eu la crise financière. Et on s'attaquera sérieusement à la dette qu'en s'attaquant aux causes de la crise financière. Et les causes de la crise financière, elles sont dans la finance mondiale, sa structuration, sa spéculation aujourd'hui autour d'un certain nombre de produits dérivés qui sont extrêmement dangereux, et on peut très bien démontrer que une façon de régler en quelque sorte les problèmes d'instabilité qu'on a aujourd'hui dans le monde et de potentielles crises qu'on a aujourd'hui, c'est de revoir de fond en comble l'organisation, le fonctionnement de ces banques, bref, du système de financement de l'économie mondiale. C'est pour ça qu'il faut une approche mondiale du système monétaire et financier aujourd'hui. Bon, moi, je défends cette position. Bon, alors, je reviens à la question de Mélenchon. Mélenchon dit, voilà, on a un système européen, un système économique qui fonctionne sur des logiques de type néolibéral, et je suis d'accord avec lui. Il dit, bon, alors c'est là où on peut peut-être discuter, mais il dit, il faut casser ça, casser cette logique, il faut en discuter avec l'Allemagne, et si ça ne marche pas, j'en ai parlé avec Jacques Généreux, qui est son économiste en chef. Déjà, à la précédente élection présidentielle, la question se posait, en 2012. Et j'ai eu une longue discussion avec Jacques Généreux sur ces questions-là. Jacques Généreux n'était pas du tout, lui, d'accord pour qu'on lance la perspective d'une rupture de la France avec la zone euro, le fait de quitter. Il dit, si on doit la quitter, ce sera parce qu'il y a une crise. Là, j'ai l'impression que le plan B, c'est un peu différent. Et si ça ne marche pas avec l'Allemagne, à ce moment-là, on se retire. Et on se retire pas à la faveur d'une crise financière mondiale. On prend la décision politique de quitter la zone euro. Donc c'est un peu différent par rapport à 2012, me semble-t-il. Moi, j'hésite parce que, si vous voulez, quitter la zone euro, c'est provoquer la crise financière mondiale. C'est pour ça que la Grèce ne sort pas de la zone euro. Les Européens font tout pour éviter que la Grèce sorte de la zone euro, parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, c'est donc très très différent, par exemple, de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Mais si un pays qui appartient à la zone euro quitte, je dirais par décision politique, la zone euro, les risques d'une déflagration financière mondiale sont énormes. Ça, c'est mon analyse. Alors, bon, cette crise, elle va sans doute arriver, de toute façon. Mais est-ce qu'on doit la provoquer ? Voilà, à mon avis, la question politique. Je crois qu'il vaut mieux, d'une certaine façon, anticiper la question et poser politiquement le problème, plutôt que de provoquer une solution qui risque de nous aboutir à un chaos mondial. Voilà, ça, c'est ma position. Enfin, on peut la discuter.
Monsieur Bouffartigue. Tu as eu la réponse dans... Non.
Vous avez évoqué à deux reprises la défense. Et vous l'avez associé à l'adverbe malheureusement.
Oui.
Deux fois. Ça ne m'a pas échappé et je vous taquine là-dessus. Est-ce que vous pensez que la défense est vos mérites que nous, Européens, nous nous y intéressions, vu en particulier l'état des relations que va nous faire subir Trump en particulier par le biais de l'OTAN. Donc, est-ce que nous devons nous intéresser à la défense, même si idéologiquement, ça n'est pas peut-être près de nos intérêts. Est-ce que le principe de réalité, justement, ne nous contraint pas à prendre à bras le corps cette défense? Et à ce moment-là, est-ce que nous devons chacun, dans nos états individuels, régler nos problèmes, ou bien sur le plan, et à ce moment-là, est-ce que la défense devient un objectif structurel pour l'Europe?
Oui, c'est posé, je crois, assez bien la question. Pourquoi j'ai eu ce mouvement par rapport à la défense? Le problème, c'est que, si vous voulez, dans ce qui se projette actuellement, ça a l'air d'être le seul point qui risque, en effet, de faire l'objet d'un véritable accord. Le reste, harmonisation fiscale et surtout sociale, on voit bien que ça viendra après. Et comme vous savez, l'Europe a été construite quand même d'abord sur l'idée d'une paix, et non pas sur l'idée de se protéger, de se défendre, même si, évidemment, le fait d'avoir une défense, par exemple, française est un élément important pour notre sécurité aujourd'hui. Mais, si vous voulez, c'est l'image qu'on risque de donner de l'Europe que, finalement, de dire que ce cercle restreint dont on parle aujourd'hui, de cette Europe différenciée qui risque de se mettre en place, ne se fasse que autour de la défense. Bon, je trouve qu'à ce moment-là, l'image qu'on va donner de l'Europe risque quand même d'être pas forcément extraordinaire. Donc, voilà, bon, c'est pour ça que... Alors maintenant, évidemment, il y a des problèmes de sécurité qui se posent à l'échelle européenne. Il est clair que le Brexit ne va pas simplifier les choses et que la France aura du mal, probablement, à partager avec d'autres pays sa propre souveraineté en matière de défense. Alors, il y a d'autres pays qui ont, évidemment, des industries d'armement, c'est clair, l'Allemagne et d'autres pays. On va probablement aller vers des discussions qui répartiront les rôles, et qui risquent même de s'accélérer sous l'effet, en effet, de ce qui se passe aux États-Unis. Mais je trouverais extraordinairement dommage que l'Europe différenciée se limite à cela. C'est une question à la fois de la perspective qu'on peut vouloir donner encore à l'Europe, qui s'est construite d'abord au départ, après la Seconde Guerre mondiale, sur l'idée quand même d'une paix entre les peuples européens. Et là, on va vers une image qui risque d'être un peu différente, qui risque d'être moins mobilisatrice aussi pour les citoyens que nous sommes.
Alors, il y a encore trois questions. Je suggère que nous prenions les trois dernières questions. Alors, il y a Emmanuel, il y a monsieur, et puis monsieur.
Moi, c'était un commentaire sur le...
Alors, reprenez les questions d'abord, s'il vous plaît. Et ensuite...
Ça dépend si c'est un commentaire sur ce que je viens de dire. Oui. Allez-y, monsieur. Oui.
Allez-y. Non, mais c'était juste pour dire... Bien sûr, c'est embêtant d'avoir une défense, mais c'est à peu près comme la démocratie, c'est la meilleure des choses. Non, mais il est absolument indispensable que l'Europe se constitue un système de défense correct.
Oui, mais est-ce que ça, c'est un facteur qui permet aux citoyens européens de se mobiliser pour l'idée européenne? C'est ça la question. Bien sûr, la sécurité, tout le monde en a besoin. Bien sûr qu'on a besoin d'une défense. Je ne discute pas de cela. Mais si on doit faire une Europe différenciée, si elle ne s'appuie que sur cet élément-là, qui est indispensable, bien sûr.
Il ne faut pas dire trop de mal à la défense. C'est dommage que ce soit nécessaire.
Oui, nous sommes d'accord.
Alors, les deux dernières, et ensuite, on va vous libérer quand même. Hein. Emmanuel.
Oui.
Vous nous avez expliqué que, en gros, bonne partie de nos malheurs, ou tous nos malheurs, viennent du fait de ce truc qu'on a du mal à maîtriser, à appréhender, qui s'appelle visiblement la finance internationale, et tout ce magma, ce truc qui magouille, qui spécule, qui, et qu'on ne maîtrise pas, et visiblement qui a pris le pas sur la politique. On est encore avec un président qu'on avait élu, qui nous avait promis de nous s'attaquer un peu à ce système de la finance internationale. On voit qu'il n'a pas mis beaucoup d'énergie, ou alors vraiment il ne peut pas. Alors la question c'est la suivante. Qu'est-ce qui va... quel mécanisme, quel organisme, ou sur quoi on va s'appuyer pour un jour remettre tout ça en cause? Parce que bon, on sait, ça magouille, ça se dépatouille. Mais on a l'impression qu'on ne peut rien y faire. Par où on va pouvoir s'attaquer un jour à ce problème?
Oui, bien, je vais essayer de répondre. Je signale que j'ai écrit un livre qui est sur la table là, qui traite en partie de la question que vous venez de poser. Une façon de répondre, c'est de dire, et c'est pas la seule, c'est de dire il nous faut un nouveau Bretton Woods. Vous savez, cette conférence monétaire de 1944, où les Anglais se sont retrouvés en face des Américains pour bâtir le système monétaire et financier qui a duré pendant les 30 Glorieuses. Alors, les 30 Glorieuses ne sont pas aussi glorieuses que cela, parce que ça a été des périodes sur un plan politique, du McCarthyisme, de la décolonisation, etc. Mais sur le plan économique et financier, ça a été une période de reconstruction et d'une stabilité financière absolument incroyable. Et donc, il y a là peut-être des idées à reprendre. Et donc l'idée de dire il faut un nouveau Bretton Woods, c'est l'idée qu'il faut reconstruire un système monétaire financier international qui permettrait, alors en grande partie, de retirer le pouvoir que les banques ont acquis à partir de 1970 jusqu'à nos jours, et qui leur permette effectivement d'être devenues des puissances gigantesques, à tel point que si l'une d'entre elles, je parle des banques systémiques, il y en a 30 aujourd'hui dans le monde, sur 40 000 banques qui existent, il y a 30 banques qui sont désignées comme telles, comme étant systémiques. Eh bien, elles sont systémiques parce que la chute de l'une d'entre elles peut entraîner un cataclysme mondial. Bon. Donc, les banques ont acquis un pouvoir de négociation si grand par rapport aux États, que les États sont devenus les otages aujourd'hui de ces grandes banques. Les États ne peuvent pas se permettre qu'une seule de ces grandes banques fasse faillite. Donc, les conséquences sont multiples hein, de ce type de rapport entre ce monde financier et bancaire en particulier, avec des États qui, pour les plus grands, sont encore démocratiques. Ça crée des situations très difficiles sur un plan évidemment politique. Donc, un nouveau Bretton Woods pourrait réorganiser le fonctionnement de ces marchés monétaires et financiers et éliminer la source principale de la spéculation qui sont, et c'est bien repéré, ce qu'on appelle les produits financiers dérivés. C'est des produits très particuliers qui ont été à l'origine des crises qui se sont développées depuis 1995, il y a eu plusieurs crises systémiques, dont la plus importante en 2007-2008. Si on revoit à la mode de Bretton Woods 1, le fonctionnement du système monétaire et financier international, à la lumière, bien sûr, des questions qui se posent aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on peut, à ce moment-là, restabiliser au moins les circuits de financement de l'économie mondiale, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et évidemment, ce n'est pas le seul problème qui se pose à notre planète. Les problèmes environnementaux, financement de la transition énergétique, etc. Il y a bien d'autres questions. Mais ce point-là est tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une nouvelle architecture monétaire et financière internationale, comme je le disais tout à l'heure, avec une organisation à l'échelle internationale, avec un Bretton Woods 2, un institut d'émission d'une monnaie commune à l'échelle internationale, des monnaies nationales, il faut que les pays retrouvent leur souveraineté monétaire. C'est la seule condition pour qu'ils puissent avoir des projets financés sur fonds publics, ou sur fonds, en tous les cas, privé ou public, où l'État peut avoir une certaine initiative, et puis des monnaies locales. Donc il y a bien trois niveaux dans cette architecture, et c'est une façon de réponse.
J'ai entendu cette réponse, mais c'est intéressant,
un
nouveau prêt de nouveau, mais ça sera
l'initiative
de qui?
Ça peut être d'abord l'initiative de la France, mais surtout de l'Europe. Il faut que l'Europe change sur ce plan-là. Si l'Europe dit on veut un nouveau Bretton Woods, il y aura probablement un nouveau Bretton Woods. Il faudra que les Américains, qui pour l'instant refusent évidemment ce type de discussion, parce qu'ils ont le dollar et sont persuadés que le dollar est la monnaie internationale dont tout le monde a besoin, donc évidemment les Américains ne vont pas se plier à une discussion internationale comme cela. Il faut un rapport de force, c'est clair.
Qui a l'euro? Les Chinois. Comment? Qui a l'euro?
Non, mais il faut qu'en Europe, il faudrait que l'axe franco-allemand, notamment, et d'une façon générale, l'Europe, si elle se refonde, puisse imposer cet agenda aux États-Unis, notamment dans une structure du type G20, par exemple, et qu'on ait une grande conférence internationale pour rebattre. Mais ça se fera si on a une nouvelle crise financière, parce qu'à ce moment-là, on verra bien quand même les limites du système de financement tel qu'on connaît aujourd'hui. Ça se fera d'une façon ou d'une autre. C'est comme les problèmes environnementaux. On s'aperçoit qu'on ne va pas sortir la planète de l'état dans lequel elle est si chacun fait son truc dans son coin. On voit bien qu'il y a une dimension globale à ces questions et on en prend comme conscience progressivement avec la COP21. C'est tout à fait modeste, mais c'est un premier pas. En matière monétaire, je pense, et financière, il faut s'engager, il faut espérer s'engager à un moment ou à un autre dans ce type de processus. Je ne suis pas, évidemment, à la tête du gouvernement français ou à la tête de la Commission européenne, donc évidemment, je parle plutôt à mon nom, mais j'écris toutes ces propositions. Jean-Luc Mélenchon m'a demandé d'écrire 4 pages sur le sujet. Donc, je lui ai fait les 4 pages. Je travaille aussi un peu avec Hamon, et voilà. Donc, si vous voulez, c'est des questions. Voilà, on essaye de les porter, et puis évidemment, il y a des intérêts extrêmement puissants qui s'opposent à ce type d'idée, de toute façon.
Et voici la dernière.
La dernière.
Bon, alors, c'est sur le Brexit, excusez-moi, je vais revenir au sujet. Alors, j'ai une question, une réaction. La question porte sur les 80 milliards qui sont en 80 milliards de... 60, d'euros, qui sont en négociation au début de l'année.
60 milliards.
Oui. 60 milliards. Voilà, je ne vois pas très bien quelles sont les raisons pour lesquelles... Et je veux dire que par là, ça m'intéresserait de savoir pourquoi la négociation va être facile ou difficile. Ensuite, la réaction, c'est par rapport à la dame du début qui a dit qu'elle se réjouissait qu'on ait respecté le vote des Anglais sur le Brexit. Je voudrais quand même rappeler que parmi les arguments qui ont été mis en Grande-Bretagne pour faire voter les gens pour le Brexit, il y a eu un certain nombre d'erreurs ou de concernant, par exemple, les sommes que les Anglais allaient récupérer chaque semaine et qu'on avait promis que ça serait versé aux services de santé 400 millions par semaine. Et le lendemain du Brexit, le responsable de l'équipe a dit « Ah oui, mais c'est une erreur, on a mal compris ». Et donc ce genre d'argument, combien ça déplace de gens? Combien ça fausse? Et donc c'est un problème important qui montre que c'est vrai qu'il faut respecter le vote populaire, mais à condition aussi que dans l'argumentation, il n'y ait pas de tromperie manifeste.
Bien, vous avez fait le commentaire à votre propre interrogation sur la question. Bien. Sur la première, non, sur les 60 milliards, j'ai pas vraiment de... Je sais que le chiffre est avancé par la Commission européenne. Ça, à chaque fois, on nous explique que ça correspond à des engagements très, très, très divers que la Grande-Bretagne a pu prendre jusqu'à présent concernant la machinerie de financement européen. Je suis incapable de vous dire précisément ce que ça recouvre. Hein. Dans tous les cas, le chiffre a été lancé par la Commission européenne. Alors maintenant, le détail, je ne le connais pas. Et ça correspond à des engagements pris par la Grande-Bretagne. Donc, normalement, que la Grande-Bretagne va honorer. Voilà. Écoutez, merci. Merci.
Bon, mais merci François. Et de nouveau, merci François. très simplement d'avoir été aussi respectueux du temps en partie et souhaité, et d'avoir été aussi clair, je dirais presque comme d'habitude. Mais je dirais que François a fait notre première conférence à la Pucambole.
C'est pas la dernière.
Elle est enregistrée sur le site de la Pucambole, pucambole.fr, dont l'administratrice est là d'ailleurs. Et merci. Et pour dire aussi que François vient de publier un livre ce mois de mars, justement qui reprend les notions de valeur travail, le problème de la financiarisation de notre économie, c'est le mot que j'arrive jamais à dire. Mais...
Financiarisation.
Oui, ça peut aller. Et j'invite tout le monde, évidemment, à poursuivre la discussion auprès de la salle à côté avec l'auberge espagnole, et en rappelant aussi que le quatrième mercredi du mois d'avril, au miracle, la conférence va porter sur quelque chose de l'espace, avec un conférencier que nous connaissons bien, de très grande qualité également, c'est Jean-Noël Sarraï, qui sera parmi nous. Bonne soirée.
Simplement pour signaler qu'il y a à Montesquieu une exposition sur...
Sur le développement.
Merci. Sur le développement de la mémoire n'est pas durable, vous voyez.
Avec un sujet qui est directement lié, qui a été plusieurs fois évoqué, avec les enjeux justement économiques et pas au niveau local, mais au niveau local aussi, c'est une question qui est très à la médiathèque du
Parlement. À la médiathèque, je trouve.
Voilà. Le développement est à la médiathèque
de Montesquieu.
Je voudrais te remettre si possible des chaises par 5 pour les biens et avoir coupé par 5.